Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Le mois dernier, on ouvrait l'année avec une série inédite de 2 épisodes consacrés au cold case. Après vous avoir parlé dans l'émission précédente de réalité virtuelle au service de la scène de crime, nous allons aujourd'hui questionner ensemble les perspectives et enjeux de la généalogie génétique. Alors que les réflexions s'intensifient sur le sujet, que la première partie du projet de loi pour une sanction utile, rapide et effective vient d'être renvoyée vendredi 20 février à la Commission des lois de l'Assemblée nationale pour être examinée en Conseil des ministres courant mars, j'ai le plaisir et la chance de recevoir 2 invités au cœur du sujet. Marie-Céline Lavrys, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes procureur de la République adjoint au pôle national des crimes non élucidés au tribunal judiciaire de Nanterre. Éric Boucher, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, en tant qu'ingénieur référent santé, au service de l'expertise technologique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation pour vous livrer à un décryptage juridique et scientifique de ces questions où se rejoignent des impératifs tenant à la collecte et l'utilisation des données de santé et des enjeux d'efficacité des enquêtes pénales. Généalogie génétique, cold case. Chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques.
Entrez.
Allons droit au but, voulez-vous ? John et Myrène, on a passé en revue votre proposition de recourir à cette méthode. La généalogie génétique dans le but d'élucider le double meurtre de 2004. Vous pouvez nous expliquer comment vous allez vous y prendre ?
Oui, bien sûr. Mais je crois qu'il est préférable que Père s'en charge.
Oui, alors, en généalogie, disons, ordinaire, les recherches se font en général de façon ascendante. Mais avec ma méthode, je fais des recherches à la fois vers l'arrière et vers l'avant. Je commence par remonter la filiation de chaque personne dont l'ADN correspond en suivant les grands-parents, et je continue comme ça jusqu'à ce que chaque lignée se rejoigne via des ancêtres communs. Ainsi, on sait que la personne qu'on recherche, dans ce cas précis, le meurtrier, descend très certainement de ses ancêtres communs.
Et vous faites vos recherches dans les archives, donc. Public, je veux dire, c'est ça ?
C'est exact.
C'est une violation de la vie privée
des
gens.
On a quasiment tout essayé dans cette enquête. Je tiens à préciser que ma méthode a le potentiel de révolutionner le travail de la police. Vous ne vous rendez pas compte du nombre d'affaires que cette technique va résoudre.
Mais vous le savez, vous.
Oui. Ils ont attrapé le tueur du Golden State après presque 40 ans grâce à cette méthode. Pourquoi ne pas la tenter ?
Un extrait de la série Le crime à la racine, qui plante extrêmement bien le décor. Un meurtre insoluble, de l'ADN, et pour surmonter l'insoluble, la perspective d'une nouvelle méthode, la généalogie génétique. Retrouver ses origines, remonter le fil des générations, tel un fil d'Ariane, voilà la quête de milliers de Français chaque année. Au-delà des progrès scientifiques, Internet a relancé les perspectives en la matière, boostant la communication de sociétés commerciales qui proposent désormais des tests génétiques individualisés, affichant au premier abord une finalité récréative. Il n'existe pas de données officielles permettant de quantifier avec précision cet engouement, mais 200 000 Français y auraient recours chaque année et l'on estime qu'environ 1,5 million ont déjà effectué un test à des fins généalogiques. Pour autant, si le droit à ses origines personnelles constitue un droit fondamental, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme en son article 8, les analyses génétiques à ces fins sont pour l'heure strictement interdites en France. Et pour cause, derrière des motivations ludiques ou à tout le moins censées être personnelles, la démarche dissimule aussi de lourds enjeux et d'importantes conséquences juridiques qui ne sont parfois pas mesurées par les particuliers qui sautent le pas. La CNIL a pourtant alerté, il y a déjà plus de 2 ans, sur les dangers de cette pratique en termes de protection des données de santé. Le génome humain révèle en effet de nombreuses informations, on y reviendra, origine ethnique, données phénotypiques, prédisposition à certaines maladies. Et en outre, le recours à ces tests impose de se plier au recueil d'éléments personnels lors des questionnaires annexés aux tests. Toutes ces informations prises individuellement, combinées, ont donc une grande valeur proportionnelle en somme aux possibilités qu'elles offrent, tant et si bien qu'elles s'exposent à être collectées, divulguées, revendues, réutilisées à des finalités tout autres. Mais ces bases de données privées ouvrent aussi des perspectives essentielles en matière pénale pour la résolution des crimes les plus graves. On se souvient en effet aux États-Unis de l'affaire dite du Golden State, citée dans l'extrait vidéo que vous venez d'entendre, et dans laquelle le tueur en série recherché depuis plus de 40 ans par les enquêteurs finit par être démasqué grâce à son arbre généalogique. En France, l'an dernier, l'affaire dite du violeur au tournevis a également mis en lumière les apports de la généalogie génétique. Alors, où en est la législation française sur le sujet? Quelles bornes le législateur a-t-il posé et quelles digues sont peut-être sur le point de tomber? Alors que le garde des Sceaux annonçait le 20 octobre dernier vouloir autoriser aux magistrats du pôle Cold Case le recours aux bases de données étrangères pour leur permettre d'utiliser la généalogie génétique afin d'élucider ces crimes les plus graves, que les discussions reprennent de plus belle depuis quelques jours et en outre qu'une proposition de loi visant à garantir le droit d'accès aux origines personnelles a été déposée à l'Assemblée nationale le 23 décembre dernier, on fait le point dans un instant avec nos invités. Musique intitulée The Truth, issue de la bande originale du film Bienvenue à Gattaca, est une façon d'interpeller sur les travers d'un profilage génétique à grande échelle. Une question certes un peu différente de notre sujet, mais qui partage un objet commun, l'analyse ADN sur un grand panel d'individus. Éric Boucher, on peut démarrer cet échange avec vous en abordant la question spécifique de la généalogie génétique qui sera donc au cœur de notre émission. Tout d'abord, peut-être, en quoi consistent très concrètement ces tests ADN récréatifs dont on va parler?
Eh bien, effectivement, c'est des tests qui vont analyser l'ADN à partir d'un échantillon, souvent un échantillon de salive. En gros, faut cracher dans un tube ou faire un petit prélèvement comme sur des tests Covid. Et donc, ce prélèvement biologique va être envoyé à des entreprises qui vont, à partir de là, analyser l'ADN. Donc, on a des machines automatiques qui vont être capables de lire l'ensemble de la séquence ADN, les fameuses lettres ATGC, ou bien de repérer des motifs sur l'ADN, des portions dont on sait qu'elles sont particulièrement intéressantes pour, parce qu'elles sont différentes entre les individus, mais également héritées. Et c'est ça qui va être tout l'objet de la généalogie génétique, c'est-à-dire de repérer en fait que tel motif est très présent dans une famille, et aussi par extension, comme c'est hérité sur de nombreuses générations, on peut remonter à, on va dire, une origine géographique, alors plus ou moins fine, selon les populations. Mais donc, au final, on va avoir des résultats statistiques. Disons, vous avez tant de pourcents de gènes d'Europe du Nord, tant de pourcents de gènes italiens, tant de pourcents de gènes asiatiques. Alors, ça reste vraiment des statistiques. Les bases de données elles-mêmes ne sont pas forcément très homogènes. Ça dépend aussi des gens qui ont fait les tests et de quelles origines ils étaient. Donc c'est des choses assez évolutives, pas toujours très précises, mais Voilà, c'est en tout cas vendu pour présenter un profil génétique sur des questions géographiques. Donc ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est celui des généalogistes. Vraiment la généalogie où on va justement utiliser ces reconnaissances de motifs pour essayer de remonter à des ancêtres, retrouver des parents. Certaines familles ont eu des histoires compliquées. On peut retrouver comme ça une tante qui a immigré aux États-Unis. Voilà ce genre d'histoire qu'on peut trouver dans les témoignages. C'est important dans la quête des origines, en effet, pour reconstituer un arbre généalogique quand les registres d'état civil ont été détruits ou qu'on a perdu le fil à un moment de l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez global, mais c'est relativement protégé aussi en France. C'est des choses qui sont censées être faites uniquement sous couvert d'un juge des affaires familiales, par exemple, quand on veut faire un test de paternité. Mmh. Test de paternité, c'est souvent ce qui est fait le plus fréquemment et ils sont faits généralement à l'étranger puisqu'ils sont interdits en France.
Alors on va y venir à cet encadrement, effectivement, cette frilosité peut-être un peu française à autoriser ce type de test. Mais déjà, au-delà de la quête des origines que vous exprimez, on perçoit le champ des possibles avec tout ça. Est-ce qu'il y a des détournements malgré tout en termes d'utilisation, enfin, j'imagine ce qu'on peut faire pour chercher ses origines, il y a aussi une tentation de l'exploiter à d'autres fins.
Oui, alors il y a deux aspects. Alors déjà, il y a le détournement, on va dire, assez direct. On l'a vu dans des recherches de relations extra-conjugales. Ouais. Là, en dehors de toute procédure judiciaire, des personnes qui, ayant récupéré des cheveux ou des traces d'ADN sur le lit conjugal, ont soumis ces échantillons en se faisant passer pour la personne légitime, pour ensuite avoir des profils génétiques qui pouvaient donner la puce à l'oreille de qui était le fauteur de troubles dans le couple. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de détournement, mais il y a des témoignages sur ces sujets-là. Il y a aussi des risques, et là, cette fois-ci, des révélations complètement inattendues, involontaires. On a des fratries qui se sont amusées à Noël à faire tous ensemble, entre frères et sœurs, envoyer tous leur échantillon en même temps et se sont donné rendez-vous un mois après pour lire les tests ensemble. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit que le petit dernier, on s'est toujours un peu moqué de lui parce qu'il ressemblait à un acteur italien. Il a pas mal de gènes italiens, en vrai. Ah, c'est rigolo et tout. Ouais. Et c'est là que le trouble s'installe, c'est que les autres frères et sœurs, pas du tout. Mmh. Ils n'ont pas du tout ce profil génétique. Et là, ça va commencer à ouvrir des questions qu'on n'avait pas forcément envie d'ouvrir. C'est peut-être juste le hasard. Hein. La génétique, il y a quand même des recombinaisons. On connaît tous les yeux bleus qu'on a hérités de la grand-mère, mais pas les autres frères et sœurs. Donc, il y a des choses qui s'expliquent. Mais dans certaines proportions, ça peut mettre un doute. Mmh. Et qui, en fait, le même doute qui est utilisé par les juges quand on veut faire un test de paternité, finalement.
Ouais, donc on ouvre une boîte de Pandore difficile à fermer ensuite. Alors, on en vient forcément, fil en aiguille, à l'encadrement. Pourquoi en France, c'est encadré, voire interdit sur cet aspect récréatif des choses, alors que ça ne l'est pas dans d'autres pays?
C'est notamment interdit par...
Pour l'heure, du moins.
Oui, parce que, tout à fait. C'est pour l'instant interdit, effectivement. Les particuliers encourent 3750 euros d'amende, mais en réalité, je ne crois pas que cette sanction ait jamais été appliquée. Ceux qui proposent les tests, qui les vendent, encourent également, pour les entreprises, 15 000 euros et un an de prison. Ouais. Donc c'est déjà un peu plus sérieux aussi. Mais en fait, pourquoi ? Déjà parce que, comme on l'a vu là sur l'exemple des frères et sœurs qui font le test ensemble, les gens ne sont pas forcément prêts à ni encadrer ni aider finalement pour recevoir ces résultats. Et on le voit aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui, ayant reçu les résultats, se trouvent très perplexes et vont faire appel à un conseil génétique. Donc en fait, il y a un marché secondaire de conseils génétiques parce que les médecins généralistes ne savent pas gérer, les psychologues pas forcément non plus. Donc on a maintenant des cabinets de conseils génétiques qui sont là pour accompagner, même parfois psychologiquement, les gens qui ont eu ces informations suite à des tests qui pensaient récréatifs finalement.
Alors on mesure déjà que dans ce contexte-là, les choses... ne sont pas si simples que ça. Derrière l'aspect récréatif, il y a évidemment d'autres enjeux qui se jouent. Marie-Céline Lavrise, dans l'aspect pénal des choses, puisqu'on va recentrer sur le second objet de l'émission, si on part du cadre juridique de la collecte de l'ADN, dans quelle mesure cette collecte est-elle admise en France dans le code de procédure pénale ? Qu'est-ce qui permet à un enquêteur d'utiliser une collecte ADN ?
Dans le cadre d'un crime flagrant, hein, l'article 56 du code de procédure pénale, vous avez un déplacement. Voilà, un crime vient d'être commis, l'enquêteur doit se déplacer, l'officier de police judiciaire se déplace sur la scène de crime, le procureur de la République est évidemment avisé, la plupart du temps il se déplace également, et vous avez là la mise en place de constatations matérielles qui sont effectuées sur les lieux du crime, avec des prélèvements, des traces qui sont prélevées, des objets qui sont saisis, qui sont placés sous scellés, et ensuite différentes analyses qui vont être réalisées grâce à des sachants. Donc on peut requérir des techniciens, évidemment de la police scientifique ou de la gendarmerie, mais des sachants, ce qu'on appelle des personnes spécialisées, qui peuvent être du domaine privé aussi, pour pouvoir analyser les prélèvements qui ont été effectués sur la scène de crime. Qu'est-ce qu'on va évidemment privilégier ? Et ça, le code de procédure pénale le permet, puisque c'est recueil de preuves en matière criminelle. Eh bien, ce sont toutes les traces. Et les traces qui nous intéressent aujourd'hui dans le cadre de votre émission, ce sont les traces qui sont chargées en ADN, plus ou moins, certes. Mais par exemple, le sang, la salive ou le sperme, ce sont des traces qui sont particulièrement bien chargées en ADN. En revanche, on a aussi des éléments pileux, des cheveux, des ongles, etc., qui peuvent être recueillis sur une scène de crime, qui vont être analysés et qui vont permettre d'identifier la victime, si jamais elle ne l'est pas, et l'auteur, si jamais il n'est pas identifié parce qu'il n'a pas été interpellé à la suite de la commission de ce crime. Donc tout ça est encadré évidemment sous supervision d'officiers de police judiciaire et de magistrats, donc ça peut être magistrat du parquet, donc procureur de la République, ou d'un magistrat instructeur lorsque vous avez un juge d'instruction qui est saisi.
Et alors ensuite, ces éléments-là, on entend souvent parler du FNAEG, on a une collecte d'informations qui va permettre ensuite de conserver en mémoire un certain nombre d'informations liées à ces recherches ADN. Est-ce que vous pourriez essayer d'expliquer les différentes les différents cas de collecte et de façon de se retrouver inscrit dans le FNAEG, que permet aujourd'hui le droit français en termes de collecte d'informations et de mémorisation, si on parle de fichiers.
Sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques, donc créé en 1998 par la loi du 17 juin, on va dire que vous avez deux éléments fondamentaux qui peuvent être inscrits. Une trace ADN. Donc, quand on dit trace, c'est effectivement ce qui a été prélevé sur la scène de crime. La trace ADN laissée par le criminel, qui est inconnue, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Donc, cette trace-là, sperme, sang, va pouvoir être ensuite enregistrée au FNAEG. À côté de ça, vous avez les personnes qui sont condamnées ou qui ont été déclarées coupables pour certains crimes ou délits, dont l'ADN est enregistré dans ce fichier. Et vous avez des sous-classes, on va dire, d'une certaine manière, les personnes mises en cause pour des crimes et des délits aussi spécifiés, listés par le texte, par la loi, dont l'ADN peut également être enregistré. Et puis, vous avez les suspects, on va dire ceux qui ont été, à un moment donné, inquiétés dans une procédure, pour lesquels on va prélever l'ADN, mais qui ne va pas être enregistré au FNAEG, au fichier, mais qui va permettre de faire des hits ou des non-hits. En réalité, le FNAEG, ce qui permet, au moment, à l'issue des prélèvements qui sont effectués sur une scène de crime, on a l'ADN supposé de l'auteur, en tous les cas, on le suspecte, puisque en cas de viol, par exemple, ça peut être du sperme. Donc, cet ADN-là, il est enregistré comme trace au FNAEG. S'il n'y a pas de hit avec une personne déjà enregistrée, condamnée ou mise en cause, on ne peut pas avancer. S'il y a un hit, évidemment, parce que la personne a déjà été mise en cause pour des faits différents ou des faits similaires, ou alors elle a déjà été condamnée pour des faits identiques ou pour d'autres infractions, là, il y a un hit, et donc on a identifié l'auteur du crime.
Et alors, une autre avancée qui a permis le droit il y a quelques années, c'est la question de la recherche en parentèle. Face à un premier obstacle qu'on rencontrait, est-ce que vous pourriez, dans le prolongement, expliquer ce dont il s'agit. On a dans l'extrait audio entendu cette idée de croiser les informations, de remonter au-delà de l'individu en ligne ascendante, horizontale, verticale. La recherche en parentèle en droit, en France, de quoi s'agit-il ?
Alors, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que comme pour le fichier national des empreintes génétiques, là, c'est une demande du terrain qui a permis de faire avancer le droit et qui a permis la recherche en parentalité. Vous avez pour la loi de 98 qui a créé le FNAEG, l'affaire Guy Georges, qui a permis la création de ce fichier qui était demandé par les enquêteurs, par les magistrats, par les avocats. Là, c'est exactement la même chose, d'une certaine manière. On avait le crime commis au préjudice d'Élodie Kulik en 2002 dans la Somme. Une jeune femme de 24 ans qui a été violée et puis tuée. Vous avez le juge d'instruction d'Amiens et la section de recherche d'Amiens, donc de la gendarmerie, qui se retrouve dépourvue parce que l'enquête n'avance pas, on n'arrive pas à identifier l'auteur des faits, alors qu'on a des traces sur la victime et à proximité de celle-ci, sur les lieux, qui se retrouve confrontée à une difficulté, on n'arrive pas à identifier l'auteur. L'idée de la recherche en parentalité, c'est qu'on va utiliser le FNAEG, donc cette base d'enregistrement ADN où on a des suspects, des mises en cause et des traces. Mmh. Et on va essayer de travailler au-delà de du simple hit non hit, on va dire, et de rechercher les ascendants ou les descendants qui pourraient correspondre à notre trace de criminel toujours inconnu. Concrètement, on a la trace du criminel, sang ou sperme, qu'on a enregistré au FNAEG. Ça ne matche pas. Eh bien, on va regarder s'il y a des segments qui correspondent dans notre fichier, parmi les personnes condamnées ou mises en cause, qui permettraient de mettre en évidence un lien de parentalité. Et on fait ça à l'époque, en 2012, donc 10 ans après le crime d'Élodie Kulik, la justice et la gendarmerie, avec un laboratoire, réalisent, l'IRCGN pour ne pas le citer, réalisent cette recherche en parentalité sans cadre. Pour border justement et assurer la sécurité juridique de la procédure, la chambre criminelle de la Cour de cassation va être saisie de la question pour savoir si c'est légal, pas légal, valide, pas valide. La Cour de cassation va se prononcer sur la recherche en parentalité en disant « Il faut considérer deux choses, distinguer en tous les cas l'objet de l'examen génétique ou de l'analyse avec sa finalité. La finalité étant l'identification d'un criminel encore inconnu et donc impuni, c'est ce qui va primer. Et la Cour de cassation, la chambre criminelle, va même préciser on peut procéder à des recherches en parentalité en matière génétique dès lors qu'on s'intéresse, on va dire, en ligne directe, ascendant, descendant. Mais elle va même au-delà, puisqu'elle dit on peut même travailler sur les collatéraux. C'est-à-dire qu'on pourrait retrouver des frères et des sœurs, voire des cousins, mais surtout des frères et des sœurs, dans le fichier qui correspondrait à la trace de notre criminel inconnu. Et on pourrait, à ce moment-là, travailler sur l'identification de ce criminel. La loi du 3 juin 2016 qui va encadrer le recours à la recherche en parentalité, elle nous dit, le code de procédure pénale nous dit, nous ne pouvons travailler en recherche en parentalité que de manière en ligne directe et ne rechercher que des ascendants et des descendants, pas des collatéraux.
Donc là, cette question que vous mettez bien en exergue sur la finalité, c'est un point important qu'on va reprendre parce que la finalité, elle sera aussi au cœur de l'usage de la généalogie génétique. Alors, pour mesurer en fait ce panorama que le droit français offre entre cette collecte de traces et cette mémorisation au FNAEG, cette extension que vous avez rappelée sur la recherche en parentalité, on a un troisième cadre jurisprudentiel qui s'est dessiné avec la question du portrait robot génétique. Est-ce que vous voulez juste en dire un mot peut-être avant de faire le lien ensuite avec la généalogie génétique, portrait robot.
C'est dans la même lignée que voilà. La parentalité. Là aussi, c'est une demande du terrain. Là, on est à Lyon. C'est le juge d'instruction de Lyon avec la PJ de Lyon et un laboratoire privé de Bordeaux. Voilà. Que je ne citerai pas non plus. Mais voilà. Et là, on est face à un violeur en série, 2012-2013, avec plus de 6 victimes recensées, un auteur inconnu qui a laissé des traces sur les scènes de crime. On n'arrive pas à avancer. Le juge d'instruction et la PJ de Lyon savent que le laboratoire peut proposer un nouveau type d'analyse, à savoir la mise en évidence des caractères morphologiques apparents de l'auteur supposé des crimes. Là encore, la Cour de cassation va être saisie et la chambre criminelle précisera les choses en disant « on va conserver notre distinction, objet de l'examen génétique, l'analyse porte sur les caractères morphologiques, on va dire les données constitutionnelles d'un être. On travaille sur du codant, l'ADN codant, qui permet de savoir si on est une femme, un homme, si on a des cheveux blancs, blonds plutôt, ou noirs, si on a des yeux bleus, si on a la peau mate, si on a la peau claire, etc. Donc normalement, en France, on ne travaille pas sur l'ADN codant, puisque le FNAEG ne reprend que des segments qui sont des segments d'ADN non codant. À part le segment du qui permet de déterminer le sexe, hein, je crois, mais je ne me souviens jamais du nom. Et également pour la recherche en parentalité, on ne travaille que sur le non codant. Là, on va travailler sur le codant. Et la chambre criminelle va valider ce travail-là en disant ce n'est pas l'objet et l'analyse même qui doit être considéré, c'est la finalité. La finalité, c'est l'identification ultérieure de l'auteur. Parce qu'on est bien d'accord qu'on est sur des outils d'investigation, d'aide à l'enquête, mais absolument pas des outils d'identification. Qu'il s'agisse du portrait robot génétique comme de la recherche en parentalité, ça ne permet pas de déterminer de manière certaine quel est l'auteur. Et le portrait robot génétique, à part me dire que l'auteur des faits serait plutôt brun, avec des yeux marrons et une peau claire, ça ne va pas me permettre de... on ne va pas
l'associer de façon unique.
Toutes les personnes, tous les hommes bruns aux yeux marrons avec la peau claire. Donc ça permet juste d'orienter les investigations.
Alors ce panorama, il semble déjà assez complet. On va revenir... dans un instant avec vous, Éric Boucher, sur la question d'ADN codant, non codant, parce que c'est évidemment quelque chose qui cristallise les discussions aujourd'hui. Mais pour finir sur ce panorama, finalement, on a l'impression qu'on est déjà assez pourvu d'éléments pour mener des investigations. Au-delà de ça, que permettrait l'accès aux bases de données ADN issues des tests récréatifs dont on parle ? En quoi ça permettrait, pour ces investigations, d'aller au-delà ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, dans certains cas, pour avancer, Marie-Céline Lauris?
Eh bien, il manque tout simplement des données suffisantes en matière de prélèvement ADN pour nous permettre d'identifier des criminels toujours impunis. Et quand on parle de criminels, s'agissant notamment des affaires qui sont traitées et suivies par le pôle Cold Case de Nanterre, on est sur des crimes particulièrement graves, qui sont les crimes les plus hautement réprimés par le code pénal, mais qui sont limités par le texte. S'agissant de la compétence du pôle national, nous pouvons suivre des affaires qui portent sur des crimes tels que le meurtre, l'assassinat, empoisonnement, acte de torture et de barbarie, enlèvement, séquestration, viol. On est sur des crimes donc dits non élucidés, puisque le texte nous dit aussi qu'à l'issue de 18 mois d'enquête, si on n'a pas trouvé l'auteur, on est sur une affaire non résolue. Donc le pôle peut s'en saisir. Lorsque vous avez enregistré la trace de ce criminel dans le FNAEG et qu'il n'y a pas eu de hit, il n'y a pas eu de match, lorsque vous avez fait la recherche en parentalité et que une liste incroyable de candidats, potentiellement parents de la trace, apparaît, parfois vous avez une dizaine de candidats, mais parfois vous en avez sur... vous avez des pages et des pages de candidats, et en plus... Ces personnes-là risquent d'être prélevées. On a en tête l'affaire Dickinson, où on avait énormément de prélèvements. Le violeur au tournevis, par exemple, l'affaire dont vous citiez l'élucidation pour l'heure tout à l'heure, où là aussi, plus de 300 personnes ont été prélevées. Et sans forcément que ça fonctionne. Le portrait robot génétique va pouvoir peut-être nous aider, mais pas plus que ça. Donc, ce qu'il nous faut, effectivement, c'est de pouvoir utiliser ces bases de données privées d'ADN pour pouvoir étendre les recherches et pour pouvoir discriminer un jour le criminel qui est toujours dans la nature.
Alors c'est ça que pour l'instant le droit français ne permettait pas, en tout cas pour l'instant sur la généalogie génétique, cette utilisation et cette collecte privée massive n'est pas directement permise aux enquêteurs. Alors comment vous faites pour accéder à ces bases de données étrangères ? Pour l'instant c'est quelque chose qui est possible par une voie un peu contournée, la question d'une entraide internationale concrètement. Ça nécessite quoi pour un enquêteur de se tourner vers cette collecte qui, est autorisé dans certains pays étrangers quand on est face à un temps d'enquête qui, lui, doit avancer rapidement.
Bien, c'est la demande d'entraide pénale internationale.
Et ça, c'est lourd, compliqué.
C'est lourd, oui, c'est assez, oui, c'est plus lourd que l'enregistrement d'une trace dans le FNAEG et puis l'interrogation automatique qui est faite, dont je n'ai pas parlé, qui est faite à travers les bases de données ADN qui sont similaires à celles que nous avons en France, de nos États partenaires qui ont signé le traité de Prüm. Il y a 27 États quand même. Hein. Donc quand notre trace de criminel inconnu est enregistrée au FNAEG, vous avez 27 autres bases qui sont interrogées et qui permettent aussi d'élargir les recherches. Là, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'on va passer par une demande d'entraide internationale. Donc, les règles de coopération pénale internationale sont respectées et donc il n'y a pas d'illégalité en tant que telle, puisque le magistrat français, avec ses pouvoirs généraux d'investigation, va tout simplement demander à un État de comparer la trace de notre criminel inconnu dans les bases de données accessibles dans cet État et selon les règles applicables dans cet État étranger. Donc ensuite, là, en l'espèce, ce sont les États-Unis qui ont été sollicités dernièrement pour les affaires françaises, mais vous avez d'autres États qui commencent à développer la généalogie génétique et ces bases de données d'ADN récréatif. On peut parler de la Suède, on peut parler du Royaume-Uni, on peut parler de la Nouvelle-Zélande, de la Slovénie, de l'Estonie, pardon. Vous avez plusieurs États qui commencent à travailler sur ce sujet-là. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le vif du sujet sur ce que c'est que la généalogie génétique, mais pour comment ça fonctionne, mais là, on est sur de la coopération pénale internationale. L'État que l'on requiert, donc là, en l'occurrence, les États-Unis, peuvent très bien nous dire non, on ne veut pas analyser ce que vous nous demandez d'analyser. Ils ont des critères, et ces critères, nous les respectons lorsqu'on fait une demande d'entraide. Il faut que la trace que l'on envoie soit de manière certaine celle de l'auteur d'un crime. Il s'agit de crimes graves, pas n'importe lesquels, non élucidés. Et il faut que notre profil qu'on va envoyer, la trace ADN que l'on envoie, soit suffisamment pur. C'est-à-dire qu'il faut éviter, des mélanges, il faut éviter, voilà. Donc, et on est sur des conditions qui sont respectées et qui sont vérifiées par l'autorité étrangère. Il faut aussi que... Peut-être préciser que la France, nous en l'occurrence, au pôle, on s'emploie d'abord à avoir utilisé tous les outils en vigueur chez nous en France. Donc le FNAEG, le traité de Prüm, la recherche en parentalité et enfin le portrait robot génétique. Mmh. C'est l'ultime recours, la généalogie génétique, à travers une demande d'entraide pénale internationale.
Donc les perspectives d'une loi... inscrivant de façon plus directe, peut-être plus facilitée pour vos services, le recours à ces méthodes-là serait pour vous un appui supplémentaire aujourd'hui ?
Et ça permettra d'encadrer le recours justement à ces demandes d'entraide, la façon dont on doit procéder, respecter les règles, éviter d'interroger n'importe quel type de base de données américaine. Par exemple, nous, lorsqu'on demande aux autorités américaines de travailler sur l'ADN que l'on envoie, ils ne travaillent pas avec toutes les sociétés américaines. Le FBI ne travaille pas avec toutes les sociétés américaines qui font de l'ADN récréatif sur place. Il n'y a que quelques sociétés qui acceptent une coopération avec les autorités judiciaires américaines. C'est-à-dire que les personnes qui ont envoyé leur ADN, les particuliers qui ont envoyé leur ADN, leur kit, aux États-Unis, peuvent accepter ou refuser une coopération judiciaire. Donc vous cochez la petite case, les conditions générales d'utilisation de mon kit ADN, et ben vous avez la case éventuellement, j'accepte que mon ADN soit éventuellement utilisé à des fins judiciaires. Et ça, toutes les sociétés américaines, ou toutes les sociétés privées ailleurs, ne le proposent pas. Donc on est quand même sur des gens qui ont consenti. Certes, ils veulent connaître leurs ancêtres et l'arbre généalogique, très bien, mais ils ont consenti au fait que, le cas échéant, si ça doit être utilisé et aider la justice, j'accepte.
Alors là, on coche la case, le consentement, je me tourne vers la CNIL, Éric Boucher. On a pris le temps nécessaire de dresser ce cadre dans le code de procédure pénale pour comprendre cette articulation textuelle et ces contraintes aussi opérationnelles qui pèsent sur les investigations. Pour celui qui consent à l'utilisation de ces données, est-ce que vous voulez réagir là-dessus ?
Oui, alors effectivement, il y a plusieurs rappels qu'on peut faire, et pour enchaîner justement sur ces questions, même aux États-Unis, cette case de consentement, elle a été rajoutée récemment, suite à une première utilisation qui avait été faite par le FBI, on va dire sous couvert, c'est-à-dire ils ont utilisé comme s'ils allaient simplement faire une recherche de cousins dans une base qui était une base collaborative, en fait, si pas vraiment une base privée, plutôt des gens qui mettaient en ligne leur ADN pour des recherches généalogiques. Et donc les enquêteurs s'en sont servis, mais on va dire la structure qui portait cette base de données n'avait pas forcément envisagé que ces données pouvaient être utilisées à des fins judiciaires. Et les membres, tous les membres de ce réseau coopératif n'avaient pas non plus imaginé ça. Donc il y a eu, je crois, quelques échanges judiciaires un peu compliqués, jusqu'à ce que justement on passe sur une idée de consentement plus officielle de pouvoir utiliser les données à des fins judiciaires. Alors, ça ne veut pas dire que les gens étaient contre l'idée, mais simplement qu'on ne leur avait pas demandé. Et donc, c'est vraiment un des points importants qu'on a justement en Europe par rapport au fameux RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, qui est justement que les personnes doivent être informées de l'usage qui sera fait de leurs données et pouvoir éventuellement consentir à des usages secondaires divers et variés. Et ce qu'on constate, alors ça s'est amélioré, mais ce qu'on constatait en tout cas, c'est que très souvent, quand vous faites ces tests récréatifs, vous cochez une case avec des petites lignes et puis des termes très juridiques que personne ne comprend vraiment et qui sont souvent faits pour qu'on ne les comprenne pas forcément très, très rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, sur pas mal de services de tests génétiques, on consent à un usage illimité, très large, pour tout un tas de finalités. Alors, celles qui sont présentées, qu'ils ont mises en avant, en général, c'est pour la recherche scientifique. Et tout le monde adhère finalement souvent à ce concept. Mais les termes juridiques sont beaucoup plus larges. Et notamment, on a vu des entreprises qui ensuite, à partir de ces tests récréatifs, ont fait des partenariats avec des grandes entreprises pharmaceutiques, par exemple, là aussi, pour faire de la recherche. Mais les personnes n'étaient pas forcément conscientes, en faisant ce test récréatif, que leurs données allaient être revendues, entre guillemets, en tout cas mises à disposition de grandes entreprises pharmaceutiques. Et ça vaut pour les tests récréatifs, mais également pour des tests qui ont été menés par des recensements génétiques qui ont été remontés par des États, notamment un État scandinave qui, étant sur une petite population, avait besoin d'avoir le profil génétique pour des questions de consanguinité, on va dire. Et donc, c'était vraiment porté par l'État. Et à un moment, un partenariat s'est dessiné avec une entreprise privée et pareil, les personnes n'étaient pas forcément conscientes au moment où elles ont participé à ce projet d'État que les données allaient ensuite être réutilisées par des entreprises privées. L'autre aspect également, c'est que, comme on l'a vu, et c'est tout l'objet de cette généalogie génétique, bien les données génétiques, elles sont partagées entre différents membres d'une famille. On l'a vu, les parents, les enfants à venir aussi, hein, on les oublie souvent dans les discussions, mais les personnes qui ont fait un test génétique aujourd'hui ont donc révélé leurs données, mais donc les données aussi des générations à venir. Donc ce volet-là aussi pose des questions en termes de droit, en termes de consentement. Est-ce qu'on peut préempter en quelque sorte le consentement des générations à venir en cédant ou en publiant son ADN aujourd'hui?
Oui, parce que finalement, si on relit ce que vous exprimez là avec les propos initiaux visant à présenter le champ des possibles de ces tests, on comprend aussi qu'au-delà de ces informations, il y a d'autres informations qui peuvent ressortir, notamment des informations médicales.
Oui, tout à fait.
Qui ne sont pas sur la peut-être la probabilité de déclarer une maladie ou autre chose, puisqu'on parlait de la nuance entre ADN codant et non codant, finalement. Oui. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner votre avis sur cette question? Quid si ces tests révèlent la probabilité de déclarer à terme une pathologie? Donc déjà, est-ce qu'on est informé de ça pour la personne qui consent, sur l'aspect récréatif des choses, à avoir de l'information?
Alors effectivement, là aussi, il faut tout à fait se rappeler que à l'origine, les scientifiques ont étudié l'ADN sur un aspect biologique, sur justement l'aspect médical, puisque là, on a beaucoup parlé de marqueurs et de profils génétiques qui sont finalement des parties de l'ADN qui varient en fonction des gens et qui permettent de retracer l'histoire des générations. Là, on va parler plutôt effectivement de parties codantes, c'est-à-dire en fait les gènes, proprement dit, c'est-à-dire ceux qui sont les petits bouts de programme qui disent à nos cellules comment fonctionner. Et comme tout programme, il y a des bugs de temps en temps, des erreurs qui se glissent dans le code génétique et qui vont participer à des dysfonctionnements au niveau des cellules et qui peuvent aller jusqu'à des maladies très graves, par exemple le cancer, ou des maladies neurodégénératives, Alzheimer par exemple. Donc on a des origines génétiques, alors c'est pas forcément immédiat, on a certains cas où il suffit d'avoir une erreur sur le code génétique pour avoir une maladie très grave, mais souvent c'est multifactoriel, donc c'est pas non plus très certain, on est sur des probabilités effectivement de développer dans 10 ans peut-être une maladie de tel type. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être assez perturbant quand ce type d'information est livré à l'occasion de ces tests récréatifs. Là aussi, il faut voir que ça dépend du package, entre guillemets, qui est proposé par les entreprises. Soit on est vraiment pur sur la généalogie, recherche de cousins, de cousins éloignés. Soit on a aussi l'aspect qui peut être de relier des habitudes de vie, de son génome, pour avoir, alors parfois, si du conseil diététique, ou vous devriez plutôt manger ça ou ça pour éviter d'avoir un cancer de l'intestin. Donc on a des choses assez diverses. Assez peu finalement ont été validés par la FDA, donc ceux qui gèrent les informations médicales aux États-Unis et les médicaments. Finalement, assez peu de tests génétiques ont une qualité statistique suffisante pour vraiment dire là, oui, vous devriez vraiment aller vite voir un médecin pour telle ou telle pathologie. Souvent, c'est des choses assez floues avec des pourcentages que personne ne peut vraiment comprendre. Et là encore, on a ce fameux conseil génétique en sous-produit, puisque les médecins généralistes sont absolument pas équipés pour analyser un pourcentage de lié à tel variant génétique particulier où il y a eu 3 articles scientifiques qui en parlent. Donc c'est une matière un peu compliquée, mais qui peut aussi générer énormément de stress chez les personnes qui vont avoir un pourcentage de développer un cancer dans 10 ans. On a vu même des personnes qui ont fait enlever certaines parties de leur corps par précaution, alors qu'en fait les tests génétiques ne leur donnaient absolument aucune certitude de développer cette maladie. Donc ça a également déclenché des procès aux États-Unis de surinterprétation de ces tests.
Alors, c'est peut-être quelque chose d'hypothétique, mais si on relie ça à la perspective pour l'enquêteur, Marie-Céline Lavrisse, qu'est-ce que vous en pensez? Si on a en même temps une information sur cette probabilité à terme de développer telle ou telle pathologie et qu'on est dans un temps long d'investigation, 10 ans après, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Est-ce que.
À première vue, non. À première vue, les données médicales ou les prédictions d'éléments de santé, d'évolution, ne vont pas intéresser les investigations et l'autorité judiciaire. Nous, sur les caractères, on va dire, essentiels en termes d'ADN codant, ce qui va nous intéresser, c'est peut-être la morphologie, le vieillissement de la personne, compte tenu des éléments d'information.
Mais c'est ça, sur un aspect vieillissement, voilà, parce qu'on travaille sur un temps long dans les affaires dont vous êtes saisie. Et là, donc, on se projette dans un futur plus ou moins proche sur le fait de dire, peut-être qu'il y a quand même, au regard de ces gènes, une probabilité que dans ce nombre d'années où vous serez peut-être saisie, du coup, la personne ait développé cette pathologie.
Éventuellement, mais on peut le faire avec le portrait robot génétique. Mm-hmm. On peut le faire, on n'a pas besoin de la généalogie génétique pour avoir ces éléments d'information. Là on progresse aussi sur sur la finesse des analyses réalisées pour le portrait robot génétique. Et c'est un travail, effectivement, qui est constant pour permettre de voir l'évolution et le vieillissement de la personne dont l'ADN a été recueilli, donc du criminel qu'on recherche.
De toute façon, Éric Boucher, vous le rappelez, ça ne tient pas compte de facteurs environnementaux qui sont pour autant aussi nécessaires à l'équation. Il y a un autre sujet dans le contexte actuel, actuellement marqué par des cyberattaques, donc on peut évoquer ici. Ces données de santé, elles sont très vulnérables. En 2023, une entreprise américaine spécialisée dans les tests génétiques avait été victime de vols de données liés aux tests ADN. On avait presque 7 millions d'utilisateurs qui étaient concernés, dont les données avaient été revendues sur le Darknet. C'est un sujet dont on a parlé dans d'autres émissions. La CNIL le soulignait, contrairement à un mot de passe, on ne peut pas changer d'ADN. Donc ça, c'est quand même extrêmement ennuyeux quand on est confronté à ce type de fuite d'informations. Il faut en avoir conscience de ces risques lorsqu'on consent à ces tests récréatifs. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus?
Oui, effectivement, comme toutes les données de santé, hélas, en ce moment, elles ont une grande valeur pour les pirates, ceux qui veulent les revendre ensuite pour harceler des personnes, pour leur faire du chantage ou pour révéler des informations qui peuvent, de fil en aiguille, permettre d'extorquer de l'argent, par exemple. Si on a la révélation d'une pathologie qui n'a pas forcément été communiquée par la personne, voilà, il y a possibilité de la faire chanter pour ne pas révéler cette maladie à ses proches, par exemple. Donc ça, ça a trait à l'ensemble des données de santé au sens large, quand il y a des violations de données, comme on dit, au sens du RGPD. Mais effectivement, les données génétiques sont particulières parce que elles sont relativement stables, même si on ne prévoit pas toujours exactement l'évolution de la maladie. Là encore, rappelons-le, elles sont partagées. Donc apprendre des choses sur un individu, ça permet aussi par ricochet d'apprendre beaucoup de choses sur ses frères et sœurs, sur ses parents, ses cousins, etc. Donc là aussi, on ne gère pas trop les conséquences d'une violation de données de ce type de base. Et puis la même entreprise qui a eu cette cyberattaque, ça a montré qu'elle n'avait pas forcément fait son travail à protéger les données. Résultat, en termes commerciaux, elle a été en difficulté. Elle est actuellement en dépôt de bilan. Et se pose là encore la question de qui va récupérer le trésor de données génétiques, qui va récupérer cette énorme base de données, et qu'est-ce qui en sera fait, en fait. Parce que là encore, quand il y a une revente, alors bien sûr, il y a des règles de compatibilité, de finalité, on va dire, par rapport au contrat qui a été signé par les personnes. Mais comme on l'a vu, ces contrats sont relativement larges. Donc le repreneur pourrait tout à fait utiliser les marges qui sont laissées dans les termes contractuels pour faire des utilisations pas forcément souhaitables ou souhaitées ou même envisagées initialement par les personnes qui avaient fait ces tests. Et donc la CNIL, notamment, par rapport à cette entreprise, a publié une fiche pour comment effacer vos données avant qu'elles soient revendues et qu'on ne sache plus du tout les maîtriser. Et donc c'est peut-être un des derniers ressorts qui reste et qui est permis par le RGPD, c'est que quelles que soient les données, où qu'elles soient, le RGPD reconnaît le droit des individus à déterminer l'usage qui est fait de leurs données, et donc notamment à les effacer si elles ont un doute sur les finalités. Et puis de manière beaucoup plus générale, puisqu'on se projette un peu aussi dans le temps, là on a parlé d'usages récréatifs, d'usages médicaux, d'usages judiciaires de ces données génétiques. La CNIL rappelle également que finalement on ne maîtrise pas forcément ce qui va pouvoir être interprété à partir de ces données, la science avance très très vite, ni le regard que les gens voudront porter dessus, et les gens, ça peut être des démocraties ou moins des démocraties. On ne connaît pas du tout le cadre politique, on va dire, dans quelques années. Et donc la constitution des bases, de ces bases génétiques, pose également des questions en termes d'éthique, de démocratie et de risque, finalement, que ces bases de données servent aussi à discriminer des populations à terme. Hélas, l'histoire est remplie de ce genre de choses, et le levier de ces bases génétiques permettrait assez rapidement, hélas, d'identifier certaines populations sur des critères pas forcément objectifs. On l'a dit, ça reste statistique. Mais voilà, il y a un risque également par rapport à ça, et c'est aussi pour ça que le FNAEG a été très encadré à l'origine. C'est pour éviter au maximum des dérives et des utilisations en dehors de la finalité qui avait été déclarée, qui était vraiment une recherche judiciaire.
Oui, votre remarque, elle soulève effectivement un problème de souveraineté qui est évidemment très important, qui dépasse le champ individuel de toutes les préoccupations qu'on a pu soulever, parce que à partir du moment où des grandes sociétés étrangères dominent le marché, il y a forcément une question pour les États de savoir si on garde ou pas une prise finalement sur ces données. Alors, puisque vous rebondissez pour finir sur la question de l'encadrement, c'est peut-être la question finale de synthèse que j'adresserai, que je vous adresserai peut-être, Marie-Céline Lavrisse, sur au regard de ces discussions actuelles, finalement, sur la loi qui est en cours pour venir encadrer cette utilisation des données collectées dans le cadre de tests récréatifs. Quels seraient vos mots conclusifs, finalement, les points de vigilance sur lesquels il vous semblerait très important de rester concentré?
Mais moi, je vais reprendre les éléments qui ont été dégagés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation depuis le début de l'histoire de la génétique en matière pénale. et que le législateur a consacré, à savoir c'est la finalité qui est l'identification d'un criminel, voilà, ou de l'auteur d'une infraction grave. On peut parler de terrorisme, on peut parler de crimes de sang, de crimes de sexe. Ce sont voilà, ces criminels qui ne sont toujours pas identifiés, qui ne sont pas punis, et des victimes qui sont pour le coup considérées comme étant oubliées par la société. Et il est de la bonne administration de la justice, il est même l'objectif de la justice, des autorités, de l'autorité judiciaire, de pouvoir donner également une réponse évidemment aux victimes, mais surtout de réprimer les actes les plus graves et les auteurs de ces actes les plus graves. Alors, cette finalité, elle doit être prise en compte par le projet de loi ou le texte qui est nécessaire en la matière parce que, comme il a été dit, il est question de souveraineté, d'encadrement qui est indispensable puisqu'on veut sécuriser le recours à l'ADN récréatif si jamais celui-ci est autorisé en France, ou alors le recours à ces bases de données ADN à l'étranger pour s'assurer que, par exemple, dans une affaire de vol de portefeuille dans le métro, on ne va pas envoyer l'ADN ou la trace laissée par le voleur sur le sac à main de la victime. Pour éventuellement un jour retrouver ce voleur-là sans avoir fait des investigations classiques. Il faut qu'on gagne du temps, certes, avec la généalogie génétique, mais il faut que cela demeure l'ultime recours. Les investigations classiques qui sont des investigations, on peut même dire maintenant de masse, puisqu'on les fait de manière quasi automatique en matière criminelle, en tous les cas, deviennent une priorité la première étape avant même de penser à la généalogie génétique. Il convient peut-être de préciser que dans les bases de données ADN dont on parle, récréatives, qu'il s'agisse de celles qui sont aux États-Unis ou ailleurs, à l'étranger, il faut avoir en tête que vous avez des nationaux, donc des ressortissants français qui ont envoyé leur kit ADN dans ces sociétés, voilà, mais vous avez aussi la population locale qui envoie son ADN. Et parmi cette population locale, vous pouvez avoir des liens de filiation avec la France. Mmh. Et par exemple, sauf erreur, je crois que la population américaine, 3% de la population américaine est originaire de France, ou a des liens avec la France. Donc quoi qu'il arrive, j'allais dire le mal est fait d'une certaine manière parce que vous avez déjà une base de données assez conséquente et il faut aussi avoir en tête que cette finalité d'identification et de condamnation ultérieure, si jamais on y arrive, espérée en tous les cas d'un criminel impuni, eh bien elle suppose également elle repose sur un outil d'investigation. La généalogie génétique n'est pas une identification d'un auteur. C'est un outil. On va retrouver des correspondants qui sont susceptibles d'être apparentés aux criminels, jusqu'à des degrés assez importants. Donc après, il y a tout un travail fastidieux qui nécessite un temps enquêteur très important de généalogie. En matière de généalogie génétique, 90 à 95% de l'enquête est faite par l'autorité française. Donc en réalité, c'est une aide à l'enquête, une aide à l'investigation, c'est un outil qui permet éventuellement d'identifier un criminel. Mais on est vraiment sur éventuellement.
Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir aidés à clarifier ce débat. Un projet de loi donc dont l'examen est à venir dans les prochaines semaines. Réponse du législateur à suivre d'ici l'été. On en reparlera donc très certainement. Merci. Thank you. que vous venez d'entendre est a priori une séquence ADN. Clin d'œil pour terminer l'émission à Opus 23 Musique for Gen, qui est une commande de l'Institut suisse bioinformatique s'inscrivant dans un projet conçu par Lydie Lane et soutenu par la fondation Cogito. Pour la petite histoire, Opus 23 fait référence aux 23 paires de chromosomes que l'on retrouve dans toutes les cellules humaines et qui contiennent notre ADN. C'est un projet qui vise à proposer une méthode pour transposer l'ADN en musique, qui ainsi est utilisée pour prendre la musique comme vecteur original pour présenter des concepts scientifiques au grand public. Alors si l'on retourne aux aspects juridiques de nos discussions, la compréhension ou l'incompréhension parfois du grand public, celle de l'opinion citoyenne, c'est aussi celle tenant au fait que parfois d'autres paramètres mettent un terme aux investigations. C'est le cas du délai de prescription. Pour en parler, je vous propose une lecture extraite d'un article publié le 3 décembre dernier dans la revue Dalloz Actualités par la journaliste Anaïs Coignac. Vendredi 28 novembre, la Cour de cassation se réunissait une deuxième fois dans le cadre de l'affaire non élucidée Marie-Thérèse Bonfanti, disparue en 1986. Clôturée en 1989, le dossier avait connu un rebondissement en 2022, soit 36 ans plus tard, l'un des suspects ayant avoué avoir tué la jeune femme. Il avait sollicité sa remise en liberté pour cause de prescription de l'action publique et depuis 2023, la question reste en suspens. Ce nouvel arrêt pourrait faire jurisprudence en matière de cold case. Le crime de meurtre peut-il commencer à se prescrire alors qu'il est ignoré de tous sauf de son auteur ? Lance le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz, en introduction de son avis, vendredi 28 février, après la lecture du rapport du conseiller à la chambre criminelle, Éric Tessereau, et la plaidoirie des parties dans l'affaire Bonfanti. Ces premiers mots constituent en soi une réponse. Il la confirmera en requérant le rejet du pourvoi formé par Yves Chatin, qui invoquait la prescription du crime de Marie-Thérèse Bonfanti, qu'il avait avoué 36 ans après les faits. Le premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, avait, lui, posé la question différemment, invitant l'Assemblée plénière, constituée de 19 magistrats, à s'interroger sur les conditions auxquelles la dissimulation du corps de la victime d'un meurtre peut avoir une incidence sur la prescription de l'action publique. Un débat juridique complexe que se renvoient, depuis janvier 2023, les juridictions du fond et du droit. Quand démarrer la prescription ? Au moment de la disparition du corps ou de sa découverte ? Faut-il la rapporter, la suspendre, la maintenir ? Ce matin, la grande chambre est pleine. D'un côté, 19 magistrats de toutes les chambres siégeant en assemblée plénière. De l'autre, les avocates au conseil, représentant les deux parties et la famille de la victime, Marie-Thérèse Bonfanti, qui œuvre depuis près de 40 ans pour faire aboutir l'affaire. Parmi le public, des magistrats en civil du pôle national des crimes sériels ou non élucidés, dit « Pôle Case », créé en mars 2022. Pour ces derniers, l'enjeu dépasse l'affaire étudiée car la décision pourrait avoir des conséquences directes sur leur dossier. Rapporteurs, magistrats, avocats, procureurs, le mesure, votre réponse déterminera la capacité d'action de la justice et tout particulièrement du pôle Cold Case, dira Rémi Heitz, citant les données envoyées par celui-ci. Sur les 22 procédures qualifiées d'enlèvement et de séquestration, 7 procédures regroupant 9 victimes seraient susceptibles d'être remises en cause s'il était fait droit au pourvoi. Dans l'avis que nous avons pu consulter, remis aux parties et à l'Assemblée, le procureur général souligne que l'évolution de l'interprétation de la prescription par la Cour de cassation donnerait tout son sens et sa raison d'être à la création de ce pôle dont on ne conçoit pas qu'il demeure cantonné à une mission d'élucidation des affaires anciennes de disparition. Autrement dit, quel sens donner à ces investigations si leur dénouement ne conduit pas les auteurs de ces crimes à être traduits en justice ? Cet article, intitulé « Suspension de la prescription dans un cold case, la Cour de cassation face à un enjeu majeur », a trouvé depuis une réponse, un article de 2025, mais depuis la Cour de cassation a rendu sa décision le 16 janvier dernier et a confirmé l'application de la prescription dans l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Alors question finale, réaction finale, Marie-Céline Lavrisse, peut-être, est-ce à dire que parfois, quand on en voit ça, les évolutions scientifiques les plus poussées, même si elles finissaient en fait par être autorisées par le législateur, ben, ne pourraient rien contre des principes fondamentaux inhérents à la procédure pénale. Votre regard là-dessus?
Oui, alors c'est vrai que vous n'avez pas tort, on peut voir les choses comme ça et te dire que bon, on peut avancer scientifiquement, on peut analyser, réanalyser, avoir une réponse et puis finalement, évidemment, ne pas parvenir à la condamnation de l'auteur des faits. Et c'est là qu'on distingue l'élucidation et la résolution judiciaire. Et l'élucidation demeure une réponse. Et le pôle a été aussi créé par la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui porte bien son nom hein, pour le pôle, parce que eh bien, il a vocation, ce pôle, les magistrats, à donner une réponse aux victimes qui n'en ont toujours pas, des années après, et parfois de très très nombreuses années plus tard, après la commission de la disparition, de l'enlèvement ou du crime. Donc on continue à travailler sur des faits qui sont prescrits. Parce qu'on a la connexité aussi qui nous permet eh bien de faire revivre judiciairement parlant certains dossiers quand on les rattache à d'autres faits qui ne sont pas prescrits eux. Donc c'est le lien de connexité qui nous permet de continuer à combattre cette prescription dans le dossier initial, on va dire. Et puis on a cette élucidation. On travaille par exemple sur le parcours criminel de François Vérove, dit le grêlé. François Vérove est décédé. Donc on a une extinction de l'action publique pour cause de décès. Mais on continue à travailler sur son parcours et on continue à essayer de retrouver des victimes éventuelles, de raccrocher certains faits à ce criminel, à son parcours, pour donner une réponse aussi peut-être aux victimes ou à leurs proches.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Marie-Céline Lavrisse, procureure de la République, adjoint au pôle national des crimes non élucidés, au tribunal judiciaire de Nanterre, et Éric Boucher, ingénieur référent santé au service de l'expertise technologique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site internet d'Amicus Radio, une émission enregistrée et préparée avec l'aide de Léobardo Arango. À très bientôt.